Les rendez-vous,
the meeting.
Les rendez-vous,
the meeting of the opera studio.
Ontmoeten aan het opera studio.
Les rendez-vous,
the meeting.
Les rendez-vous,
l'appuntamento dell'opera studio.
Try to remember the kind of September when life was slow.
C'est pas bien ça.
Les lents et fous, les sans les roues, les.
C'est dans
le. Les lents, lents des roues, le.
En espagnol.
De l'opéra.
Ah, pas bienvenue.
Studio.
The Opera Studio's Rendezvous.
Los Encuentros de l'Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opera Studio.
Poznanie Opera Studio.
Merhaba, le rendez-vous de l'Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opera Studio.
Les rendez-vous de l'Opera Studio.
Très chères auditrices et très chers auditeurs de RDL 68, bien le bonjour. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro des rendez-vous de l'Opéra Studio, je reçois un jeune chanteur mexicain, baryton de son état, Monsieur Carlos Reynoso. Carlos, bonjour.
Bonjour Sandrine, merci pour l'invitation, heureux d'être ici.
Ah bien écoute, avec grand plaisir, je suis très heureuse de te recevoir. Et tout de suite, la première question, depuis quand fais-tu de la musique ?
Depuis quand moi, je commençais à l'âge de 11 ans en chantant tout le temps.
D'accord, tu chantais tout le temps, donc tu t'es
bon,
dit, je vais faire de l'opéra.
Bon, je chantais tout le temps, oui.
tu as commencé par l'opéra ou tu as fait un autre répertoire d'abord ?
En fait, oui, je commençais pas précisément pour l'opéra, mais oui, pour le répertoire classique.
Ah oui. Et donc, tu faisais des mélodies plutôt du répertoire... parce que étant mexicain, est-ce que tu as commencé par des mélodies mexicaines ou des choses que tu entendais régulièrement à la radio ?
Oui, bien sûr, c'était des mélodies mexicaines, académiques, disons. Oui. Mais surtout, c'était de répertoire religieux, parce que ça faisait partie du répertoire d'une maîtrise. Escola Cantorum de México, ça s'appelle. J'ai fait partie de ça depuis 11 ans. Mm-hmm. J'avais 11 ans. Et après... J'ai eu la chance, dans cette même maîtrise, de participer dans la production de l'opéra en Mexique, au Palacio de Bellas Artes, le Palais de Beaux-Arts, là, en Mexique.
Ah oui, et quel était ton premier opéra, alors, en tant qu'enfant de la maîtrise ?
Le premier opéra que je fais, c'était Pagliacci et Carolina Rusticana.
Ah oui, il y a beaucoup de cœurs, oui, il y a un cœur d'enfant, mais oui, bien sûr.
Oui, il y a un cœur d'enfant dans Pagliacci, et c'était très rigolo, et je me rappelle avec tendresse de ce souvenir, parce que c'était aussi la première fois que j'ai donné mon premier bisou.
Ah oui?
Oui, dans l'opéra. Pas dans l'opéra, c'était aux coulisses. Oui, c'était hyper drôle.
Ah, d'accord, c'est ton premier... un petit bisou à une petite fiancée.
Exactement.
Ah là là, oh là là. Ah oui, bien sûr.
On était tous habillés comme des petits Italiens, et avec les taches de la peau et tout ça.
Ah oui, c'est très mignon. Mais oui, c'est bien, oui, parce qu'évidemment, en opéra, non seulement on chante, on joue la comédie, on est costumé, c'est un total.
Exactement, c'était un moment magique, disons, et il fallait profiter.
Et alors donc, tu es rentré dans cette maîtrise parce que tu ne faisais que chanter à la maison et tes parents se sont dit bon, on va le mettre dans une maîtrise ou bien une autre raison a fait que tu es arrivé dans cette maîtrise. Comment ça s'est passé ?
C'était absolument une autre raison parce que par contre j'avais honte de chanter. Et pourquoi j'avais honte ? Parce que je voyais chez moi que c'était mes sœurs et ma mère qui chantaient mais pas ma père. Du coup, j'imagine, je sais pas vraiment, mais j'imagine que je pensais comme enfant, bon, c'est pour les filles chanter.
D'accord.
Et du coup, un professeur de l'école primaire à Mexique est arrivé, il a dit, tout le monde va nous chanter Las Mañanitas, qui est la chanson qu'on chante là-bas pour l'anniversaire.
Oui.
Tout le monde me va chanter Las Mañanitas et je vais décider qui seront les gens qui feront partie de la maîtrise ici à l'école.
D'accord.
Et j'avais trop peur de chanter et je commençais à chanter Estas son las mañanitas, juste pour me faire le...
Pour te donner du courage, finalement.
Pas vraiment pour me donner du courage, mais pour me moquer un peu de la situation, juste pas pour rigoler.
Oui.
Pour rigoler vraiment. Et il a dit tout le monde dehors, je reste avec lui, et je pensais qu'il voulait parler avec ma mère, je sais pas.
Oui, tu pensais que tu avais fait une bêtise.
Exactement.
Oui.
Et non, il m'a dit non, tu as de la voix, je veux que tu fais partie de la maîtrise, et je crois que tu as une belle voix.
Comme quoi, hein, ça se décide très très tôt, c'est fou, c'est fou. Et donc après, tu es rentré dans cette maîtrise, et puis tu as dû peut-être prendre ton premier cours de chant. Est-ce que dans la maîtrise, on vous donnait des cours de chant particuliers ou alors on vous donnait des conseils collectifs?
C'était
comment
plutôt
ça collectif. Se passait
Oui, plutôt c'était plutôt collectif, mais à la maîtrise, quand même, il y avait une formation très intéressante de musicale.
Ouais.
On faisait des examens de mélodie, c'est-à-dire mélodique, harmonique, rythmique.
Ah oui, c'était très complet, c'était un enseignement complet. C'était pas uniquement de chanter dans la chorale.
Exactement.
Ah oui, très bien. Et donc, vous aviez peut-être des cours individuel ou pour vocaux, pour la technique vocale?
C'était
ou bien
plutôt
non.
En groupe tout le temps.
En groupe.
Oui.
Très bien, très très bien. Et donc tu es chanteur, tu étais chanteur, tu vois. Et est-ce que tu joues d'un instrument?
Oui, je joue un peu le piano. Je ne suis pas du tout pianiste, mais je joue un peu le piano. Et je jouais la
flûte à bec.
Exactement, à bec.
La flûte à bec.
Oui.
Ah oui, d'accord. Bah oui. Ah ben, dans les écoles en France, tous les enfants doivent jouer de la flûte à bec. C'est l'instrument. Oui, c'est ça. Je sais pas si c'est pareil.
Exactement.
Au Mexique,
c'est égal, oui.
Ah oui, c'est ça. Je pense que c'est parce que l'instrument est tout petit et rentre facilement dans le cartable.
Et c'est très bien.
Je
crois que c'est une très belle stratégie pour développer les skills, les habilités.
Oui, l'habilité. Oui.
L'habilité musicale. Pour les,
oui, c'est ça. Ça, en tout cas, ça fait toucher du doigt un petit peu la pratique d'un instrument. On est obligé d'apprendre un petit peu le solfège, peut-être.
Oui, et je me rappelle très bien de la première fois qu'à la maîtrise, m'ont demandé de découvrir, de déchiffrer les notes dans certains passages. Et le prof m'a dit, j'avais jamais à eux un cours de musique. Il m'a dit, quelles sont ces notes? Pam, pam, pam. Je disais, pourquoi je devrais savoir ça?
Oui.
Mais du coup, je me rappelais je jouais à la flûte. Sol, la sol, mi, ré, ré, si, si, do, do, sol, ta, ra, ra, ra. Ça s'appelle comment? La chanson de Noël.
Oui, Stille Nacht.
Stille Nacht, exactement. Oui. Et je dis, ah bon, la sol, mi, peut-être? Oui, oui, bien sûr.
Oh!
La sol, mi. Bon, pour la première fois, j'avais jamais essayé
Ah, mais c'est bien, dis donc. Mais donc, ça veut dire que tu as une très bonne oreille et que tu as reconnu avec la mélodie. Enfin,
oui.
Tu vois, tu as pu faire la corrélation avec ce que tu joues à la flûte.
Et que les stratégies, enfin, ça fonctionne pour les enfants.
Oui,
ça fonctionne
oui,
très bien.
Oui, 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 oui. Ben oui, ça, c'est la preuve. Et parmi ta famille, alors, donc, tes sœurs chantaient, ta maman chantait, mais est-ce qu'elles faisaient elles-mêmes partie d'une chorale ou est-ce qu'elles pratiquaient un instrument ou est-ce qu'elles avaient fait des études musicales?
Pas du tout. J'avais parlé avec ça. Je parlais de ça hier avec un copain. Elles chantaient Shakira, Luis Miguel.
C'est ça, plutôt de la variété.
Exactement.
Mais, oui, mais bon.
Mais ils n'avaient jamais pris de cours de musique, mais. Quand même, dans la musique, il y avait une certaine tradition déjà musicale. Il y avait deux oncles qui faisaient de la guitare, qui jouaient la guitare.
Ouais.
Mon grand-père, il avait en Mexique, c'était habituel à l'époque d'avoir les trios. C'était trois personnes qui jouaient de la musique plutôt comme boléro, comme des ballades.
Ouais.
Et après, mon grand-père, il était violiniste et il était un très, très bon violiniste de musique classique, bien sûr. Et cette tradition musicale s'est à peu évaporée jusqu'à arriver à ma famille, à
ta génération, en fait, au moment où toi et tes sœurs.
Exactement, parce que dans ma famille, c'est vrai qu'il y avait une tradition musicale, mais on ne faisait pas de la musique classique chez moi.
Oui, c'est-à-dire vous aimiez ça et vous pratiquiez de manière, en amateur, et c'est très
exactement.
Bien, et c'est magnifique parce qu'en fait, c'est spontané.
Oui.
Et c'est beau aussi.
Oui,
c'est
oui.
beau aussi. Mais alors, donc, après toutes ces années à la maîtrise, à un moment, tu as dû te dire, bon, je vais prendre des cours de chant. Non, comment ça s'est passé?
C'était parce qu'à la maîtrise, je me rappelle que d'abord, je ne chantais pas bien. Mais peu à peu, je commençais à plus ou moins mieux me débrouiller. Et à l'âge de 15 ans, j'ai eu mon début, j'ai fait mes débuts, disons, à l'Opéra du Mexique. Avec la voix déjà d'homme, disons.
Oui, d'adulte.
D'adulte, oui.
Mm-hmm.
Et j'avais chanté Papageno au Palais des Bellas Artes des Beaux-Arts. Et à partir de ce moment-là, je commençais à penser vraiment au chant comme métier. Et à 16 ans, je suis rentré dans l'école de musique, dans l'université plutôt de musique à Mexico.
Mm-hmm.
Et c'est là que je commençais à avoir des leçons particulières.
D'accord. Bien, nous allons poursuivre ce parcours de formation un petit peu plus tard. Et nous allons justement écouter le premier extrait que tu as choisi pour nous. Et il se trouve que c'est l'air de Papageno, de la flûte enchantée de Mozart. Donc, le premier rôle que tu as chanté sur un plateau à Mexico. Nous écoutons.
Bin ich ja stets lustig, heißer Hopsassa, ich Vogelfänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Weiß mit dem Locken umzugehen und mich aufs Pfeifen zu verstehen. Drum kann ich froh und lustig sein, denn alle Vögel sind ja mein. Der Vogelfänger bin ich ja stets lustig, heiße Hopsassa, ich Vogelfänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Ein Netz für Mädchen möchte ich, ich fing sie dutzendweis für mich. Dann sperrte ich sie bei mir ein und alle Mädchen wären mein. Mädchen wären mein, so tauschte ich brav Zucker ein, die welche mir am liebsten wär, der gäb ich gleich den Zucker her. Und küsste sie mich zärtlich dann, wär sie mein Weib und ich ihr Mann. Sie schlief an meiner Seite ein, ich wiegte wie ein Kind sie ein.
Nous revoilà à ce rendez-vous de l'Opéra Studio en compagnie de Carlos Reynoso, baryton de l'Opéra Studio de l'Opéra National du Rhin. Et nous venons d'écouter l'air de Papageno de la flûte enchantée de Mozart. Pourquoi, Carlos, as-tu choisi, enfin, j'ai une petite idée, mais est-ce que tu peux redire à nos auditrices, à nos auditeurs, absolument, la raison pour laquelle tu as choisi cet air et peut-être aussi pourquoi as-tu choisi ce chanteur en particulier?
Oui, ce chanteur, parce que c'était mon préféré. Bon, l'air, c'était oui, parce que c'était le premier rôle que je fais dans ma vie.
Voilà, le
dans
premier
ma vie,
rôle.
Disons professionnel. Bon, j'avais 15 ans, mais on
oui,
peut
mais
dire...
enfin, c'était quand même dans une maison d'opéra.
Exactement.
Enfin,
voilà, oui, avec l'Orchestre symphonique de Mexique.
Ah
tout
oui,
ça.
Oui, oui, du coup, donc très sérieux. Oui, oui,
oui,
bien
oui,
sûr. Oui, oui.
Et Hermann Prey, je ne sais pas comment le prononcer,
oui, très bien,
en français,
oui,
avec l'accent français, Hermann Prey. Hermann Prey.
Oui, voilà, très bien.
Il était le baryton que j'entendais le plus quand j'étais étudiant.
D'accord, mais c'est un très très bon, très très grand chanteur, très bel artiste. Ça ne m'étonne pas, tu as bon goût, c'est bien. Et alors, puisqu'on parle d'un baryton, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la voix de baryton? Est-ce qu'il y a plusieurs sortes de voix chez les messieurs, chez les dames, etc.? Est-ce que tu peux nous faire une petite révision de tout ça, s'il te plaît?
Bien sûr, chez la musique classique et en fait chez la vocalité, la voix, mm-hmm, il y a surtout deux classifications,
oui,
peut-être dire. Que c'est d'abord les voix féminines et les voix masculines.
Oui.
Les féminines se divisent.
Oui, se divisent, oui, à peu
se
près.
En...
Oui.
À peu près, oui, en soprano, mezzo-soprano et alto, contralto.
Voilà, c'est ça, du plus aigu au plus
exactement,
grave.
Exactement, voilà, la soprano, c'est la plus aiguë. Et après, chez les voix masculines, c'est le ténor, le plus aigu, ouais. Après le baryton, que c'est ouais. La voix au milieu,
intermédiaire. Dire, oui.
Et après le basse. Il peut avoir entre cette voix, ce type de voix, cette tessiture, ça s'appelle tessiture, il peut avoir plusieurs tessitures
oui.
Là.
Oui, parce qu'en fait, c'est pas une science exacte dans la mesure
exactement.
Où chaque voix est unique. Et donc, on essaie quand même de les classer par catégorie, si on peut dire, par tessiture. Mais parfois, des chanteurs qui sont basses, s'ils ont pas mal d'aigus, peuvent peut-être de temps en temps chanter
oui,
quelque
oui.
chose qui est plutôt destiné à un baryton. Et parfois, des barytons qui ont des bons graves
exactement.
Assez sonores peuvent faire aussi. Donc, c'est vrai que la frontière est assez poreuse, mais en général, c'est vrai que ça permet de mieux visualiser et de mieux comprendre voilà, le type de voix du chanteur qu'on étudie, enfin dont
exactement.
On parle. Oui, c'est ça. Donc toi, tu es baryton, donc la voix intermédiaire chez les,
oui.
chez les hommes, effectivement. Et donc, après tes études, je rappelle rapidement, tu as fait partie d'une maîtrise. Ton premier rôle, ça a été Papageno dans La Flûte Enchantée au Mexique, dans une maison d'opéra. Attention, avec un orchestre et tout et tout. Et puis, tu aurais pu te dire, bon, bah, ça y est, c'est que tout, c'est bien, je vais chanter au Mexique. Et maintenant, tu t'es pas dit ça, tu t'es dit, je vais aller voir le monde. Et tu es arrivé jusqu'à l'Opéra Studio. Et est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé entre ce premier rôle et puis ton arrivée à l'Opéra Studio?
Ouh, plein de choses.
Eh bah oui, certainement.
Ça me prendra toute la journée.
Non, mais... bah alors essaie de faire un petit résumé, ce sera bien.
Oui, après ça, j'ai eu une petite crise existentielle, une petite crise de vocation parce que je voulais bien me dédier aussi à la philosophie.
Oui.
Et du coup, j'étais presque, je voulais quitter la musique et me dédier à la philosophie. Mais à 18 ans, j'ai dit non. Je trouvais le moment, j'avais eu un moment où je chantais. Et je me suis dit non, c'est ça, c'est la musique, c'est le chant que je veux parce que ça me remplit animiquement, disons,
oui,
le chant.
Oui, oui.
Et c'était à 18 ans. Du coup, à partir de 18 ans, j'ai pris encore plus sérieusement la musique. À 20 ans, j'ai remporté un prix à Mexique, c'était la révélation jeunesse, disons,
oui.
au concours national de chant. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé un parcours un peu plus professionnel, d'abord au Mexique, et jusqu'à 23 ans, que c'était la pandémie. J'ai quitté la ville de Mexico, la capitale, pour aller à Monterrey, qui est une ville au nord du Mexique, pour faire un an de studio là,
oui.
Qui est concentré sur l'opéra.
D'accord.
Après, j'ai fait une audition pour le théâtre à Valencia, Palau de les Arts, ça s'appelle. J'ai gagné l'audition, heureusement, et avec beaucoup de chance. Et,
un peu de talent aussi, je pense.
J'imagine un
oui,
peu.
Oui, oui, je pense.
Et j'étais là, en Valencia, pendant 2 ans, au studio. Après, j'étais un an comme freelance. Et après, j'ai fait l'audition pour le recrutement de l'Opéra Studio ici à l'Opéra du Rhin.
D'accord. Et donc, tu as commencé à travailler, enfin, à aborder le répertoire lyrique, c'est-à-dire de l'opéra, le répertoire de l'opéra, quand tu étais à Valencia ou un petit peu avant quand même à Mexico?
Oui, avant. Depuis Mexique. Et avant, bon, à 15 ans, j'avais chanté Papageno, bien sûr.
Oui.
Mais après, à l'école de musique à Mexique, à Mexico, j'avais déjà une formation, sinon pas... totalement concentré sur l'opéra parce qu'on étudiait aussi de lied, de la mélodie française.
Oui, voilà,
de
plusieurs sortes de répertoires
exactement.
Dans toujours ta tessiture de baryton dont on parlait tout à l'heure.
Exactement.
Donc, tu as eu envie de venir à l'Opéra Studio. Donc, tu t'es présenté, tu as chanté à l'audition, tu as été reçu brillamment. Je tiens à signaler, car ça, c'est ma petite anecdote à moi, que, et ça y est, Carlos, il sait ce que je vais dire, quand on écoute des chanteurs et qu'on a envie de les engager, on aime bien leur parler un petit peu. Donc Carlos avait fait une très belle audition, donc le jury et moi-même on a souhaité lui parler et il parlait très bien le français. Il disait mais j'apprends là parce que je sais pas trop parler français, mais en fait j'apprends le français en écoutant France Culture. Donc je me suis dit ah d'accord, bah c'est bien, donc il va bien parler français. Et la preuve en est que tu parles très très bien français, même si toi tu dis que tu es pas tout à fait
je voudrais bien
parler mieux encore
ou...
mais franchement je peux te dire que voilà, chapeau bas, c'est très très bien. Donc c'était le petit pas de côté. Donc tu es rentré à l'Opéra Studio et donc, il y a eu une audition. Comment ça s'est passé, ton audition? Comment tu t'es senti ce jour-là?
Et je dois avouer, je ne sais pas si c'est le moment pour le dire, la place pour dire ça, mais ce n'était pas mon meilleure audition.
Oui.
J'avais eu des meilleures auditions. Et là, dans cette audition-là, je me sentais à l'aise, mais étonnamment, je ne me sentais pas vraiment comme d'autres fois. Et ça veut dire que... Bien sûr, j'avais déjà un parcours d'audition par tout le monde. J'avais déjà fait audition dans plusieurs scénarios. Et cette pratique, cet exercice, disons, de faire plusieurs auditions m'a remporté à la fin une sorte de comment dire,
c'est-à-dire tu as un fonctionnement minimum, c'est-à-dire que justement tu as, comme ta technique est quand même est quand même très avancée,
et maintenant
même les jours où tu es pas trop en forme, tu arrives quand même à passer sur cette petite forme
et ça a commencé dans ce moment parce que maintenant je sais que par exemple j'ai chanté hier à Bulgarie et j'étais arrivé le soir avant et me voilà ici à Colmar un jour après, je vais chanter tout de suite à l'Opéra Studio. Je sais que même si on n'a pas dormi comme
on aurait il faudrait le nombre d'heures,
exactement, on n'est pas bien reposé, tout ça, on a déjà un niveau minimum et ça, ce qu'il faut pour faire partie d'un opéra studio comme celui-ci de l'Opéra.
D'accord. Et donc, tu es allé en Bulgarie, mais qu'est-ce que tu es allé faire en Bulgarie?
C'est un secret? Non. C'est un concours.
Dommage.
Non, pas du tout. C'est un concours, c'est le Belvedere concours, le concours Belvedere qui est un concours très, très important.
D'accord. Et donc là, c'était quoi, le premier tour?
Exactement, la première étape.
Et donc, tu attends le résultat ou tu as eu le résultat? Qu'est-ce que.
On attend encore.
On vous attendait le résultat.
Exactement.
Ok, très bien. Bon, alors on croise les doigts.
Merci,
on croise les doigts. Et donc, te voilà à l'Opéra Studio. Et comment ça se passe à l'Opéra Studio, alors tous les jours concrètement? Qu'est-ce qui s'y passe? Voilà, tu travailles tout seul avec d'autres personnes, d'autres chanteurs, des pianistes peut-être, enfin voilà. Est-ce que tu peux nous raconter?
Il y a beaucoup de monde avec lequel on travaille ici à l'Opéra du Rhin en général, parce qu'on travaille pas seulement entre les gens de l'Opéra Studio, on travaille avec les productions de l'Opéra du Rhin. Moi, j'ai eu la chance de travailler, de faire partie dans la production de Peer Gynt et aussi La Traviata qui très récemment a été jouée.
Oui, c'est ça.
Et... moi, je trouve, j'ai déjà chanté, heureusement, dans plusieurs théâtres. Et le théâtre, je dis la vérité là, où on sent une meilleure ambiance de travail, c'est ici à l'Opéra du Rhin, parce que tout le monde, au moins c'est ce que je vois, est content. Et les gens de l'Opéra Studio, les pianistes de l'Opéra Studio, les chanteurs, et les habilleuses, les gens de le staff, les techniciens, bien sûr, la direction, et toi-même. Moi, je trouve tout le monde confortable et heureux de faire partie de l'Opéra du Rhin.
Écoute, c'est le plus beau compliment qu'on puisse nous faire, parce qu'en fait, on essaie justement que les productions se passent le mieux possible. Et moi, à l'Opéra Studio, j'essaie aussi de faire en sorte que les jeunes artistes qui sont là, qui viennent de tous les pays du monde, se sentent un petit peu comme à la maison, enfin, qu'ils se sentent entourés, qu'ils soient pas tout seuls.
Absolument, parce que tu sais, c'est pas facile pour les étrangers d'arriver ici et faire partie du coup d'un groupe, mais on nous accueille vraiment bien ici.
Je suis ravie, tant mieux. Et donc, tu as travaillé, tu as participé à Traviata, tu as participé à Peer Gynt. Est-ce que il y a des productions qui sont déjà comment dirais-je décidées et que tu vas faire plus tard, soit à l'Opéra du Rhin, soit ailleurs peut-être?
Sur l'Opéra du Rhin, je profite pour dire que j'attends encore quelques invitations, si jamais.
On ne sait jamais, monsieur le directeur, si jamais vous écoutez l'émission. Ok, d'accord.
Mon cher monsieur le directeur. Mais non, pour l'instant, les projets sont hors l'Opéra du Rhin, et avec bien sûr l'espoir de revenir ici dans cet opéra que j'aime beaucoup. Les projets prochains seront dans plusieurs théâtres, surtout en France. Heureusement, ça sera l'Opéra de Montpellier, l'Opéra de Reims aussi.
Oui.
Bordeaux, Théâtre Champs-Élysées, bien sûr. Et hors la France, ça sera au Rossini in Bilbad en Allemagne, Wolfsburg aussi en Allemagne. Et je me rappelle plus, mais...
D'accord, tu as beaucoup de projets. Donc, si monsieur le directeur veut t'engager à l'Opéra du Rhin, il va falloir qu'il fasse vite, parce qu'il n'y aura plus de date libre. Bien, on va faire une nouvelle pause. On va faire une nouvelle pause pour écouter le deuxième extrait que tu as choisi de nous faire entendre dans cette émission. Nous écoutons.
There's a lot can make it and men who cannot. There are fish who go swimming and fish who wind up in the pot. There are men who will study the books till judgment day and examine the techniques of winners galore. There are men who will practice the rules religiously. Every day they'll improve just a tiny bit more. And they'll put all their soul behind it, all their ego, power, drive, and will and desire behind it. And they'll throw themselves in. But they never will win, they never will win, they never, 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 never will win. Thin. There are fish who are fattish and fish who are trim in the fin. There are men who will sweat out their days in cabinets and be pummeled and badgered and beaten and rolled. There are men who will sweat out their nights in Turkish baths. They'll buy every reducing machine that is sold. And they'll live for a week on lemons and another week on grass and water and crackers and lemons and lay off of the gin. But they'll never be thin, they'll never be thin, they'll never, 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 never be thin. A winner, an ancient boy, a hero in a story with a wonderful sequel. Men are created all equal. There are men that whatever they touch will turn to gold, and their every decision will always be right. There are men who can handle the work of seven men and still manage to sleep 7 hours a night. You can throw all your weight against them, all your fire, snow, and hail and darkest disaster against them. They'll respond with a grin. For they always will win, they always will win, they always, 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 always
Vous écoutez RDL 68, nous sommes dans les rendez-vous de l'Opéra Studio et je reçois aujourd'hui Carlos Reynoso qui a choisi de nous faire écouter cet extrait de Trouble in Tahiti de Leonard Bernstein. Pourquoi as-tu choisi cet extrait, cher Carlos?
Parce que je voulais bien raconter une anecdote. On m'avait demandé de raconter une anecdote rapport à ça et par rapport à ma vie, disons, mon parcours musical. Et c'était une anecdote que j'aime beaucoup raconter parce que c'était une fois que j'étais à Barcelone, je faisais n'importe quoi, j'étais là pour un concours, pas pour faire partie du concours, mais pour le voir. Et j'ai reçu un message d'un ami bariton aussi mexicain, Omar Lara, qui me disait « Tu connais quelqu'un qui sait le rôle de Sam Trouble in Tahiti ?» Je disais « Non, je connais personne. » Tu connais pas le rôle parce que je peux pas chanter et demain c'est la première.
Aïe, aïe, aïe.
Je disais, oui, je le connais. Pardon, oui, je
j'ai oublié, mais je le connais. Et en fait, pas du tout. Mon Dieu, t'as travaillé toute la nuit.
Oui, non. Exactement. Elle me disait ça à 19h du soir.
Ah oui, quand même.
Et là, et dans 24h, c'était la première. Et du coup, elle m'a dit, oui, tu me jures que tu connais bien le rôle. Oui, je le connais. Bon, je dois l'étudier, bien sûr, le repasser, mais je le connais très bien, je l'ai chanté. Bon. Et là, elle m'a contacté avec l'agence, elle m'a contacté avec le théâtre. C'était à l'Opéra de Tenerife.
Oui.
À Tenerife. Et oui, le lendemain, j'étais à l'Opéra de Tenerife en faisant mes débuts.
Et tout par cœur, parce qu'évidemment, par cœur.
Par cœur, oui.
Avec la mise en scène qu'on t'a expliqué un quart d'heure avant de monter.
La répétition était effrayante.
Oui.
Effrayante.
Oui, effrayante.
Effrayante. Parce que je dois avouer, j'espère que personne là-bas à Tenerife écoute ça. Mais aux répétitions, il était là, le directeur de l'opéra, et je me rappelais pas trop bien de la musique. Et parfois, je arrêtais la répétition pour dire n'importe quoi, pour dire, c'est-à-dire la musique marchait bien. Et du coup, je me rappelais pas de la prochaine
texte,
partie
du texte
ou bien, de la musique. Je disais, ah, attends, mais là, je dois marcher vers là ou vers là.
Ah,
je
oui,
dois prendre ce vers là ou je dois, comment je prends le vers?
Oui, tu t'en es sorti comme ça.
Exactement.
Mais oui, bravo, comme ça, t'avais le temps de réviser.
Exactement, exactement.
Oh mon Dieu, mon Dieu.
Mais pendant toute la répétition, j'étais, je voulais pleurer vraiment. Et quand personne me voyait, je tournais la tête et je criais pour moi-même, maman,
parce que pourquoi j'ai dit oui?
Exactement.
Et finalement, ça s'est bien passé?
Finalement, c'est bien passé. Et cette air, c'est un cauchemar.
Oui, c'est un air très difficile. Oui.
Mais
oui.
À la fin, c'était la partie la plus difficile. Et bon,
mais il n'y avait pas que ça, parce qu'il y a des ensembles, il y a un duo, crois, avec la musique.
Il y a le duo.
Ouais, il y a pas mal de choses. Hein,
c'est
assez long, le rôle.
C'est pas, exactement, c'est le rôle principal avec le rôle de Dina.
Et oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais il y a du texte aussi, je pense, non?
Un petit texte.
Oui, mais ça va, ça, c'était pas trop.
C'est pas trop.
Ah oui, d'accord. Ah oui, mon Dieu. Ah oui, ça, c'est une belle anecdote, en effet.
J'aime
beaucoup. Bon, oui, ça, tu as dû avoir chaud un petit peu. Hein,
absolument. Aussi, ils m'ont dit, bon, ton taxi, après la répétition, que c'était pas la meilleure répétition, ton taxi t'attend pour t'amener à l'hôtel. Et j'ai dit, non, donne-moi un studio, je reste ici.
Il faut que je travaille.
Oui, je reste étudié.
Oui, c'est ça. Eh ben, dis donc, quel courage. Mais ça, c'est quand on a la passion chevillée au corps. Voilà, on fait des choses comme ça. Ça marche. Et
la
ça
passion
marche.
Et la nécessité de travailler parce que c'était mes débuts.
Mais oui, il fallait. Bravo, mais tu as pris un risque, mais tu as bien fait. La preuve. Regarde, tu es ici. Et alors, finalement, donc ça, c'est une qualité. La qualité de se dire, je vais y arriver, je vais bosser, je vais beaucoup travailler. Mais quelles sont, à ton avis, les autres qualités dont un chanteur d'opéra doit être doté pour faire une jolie carrière, enfin une carrière agréable, confortable?
Comme tu as dit, il faut cet courage pour se plonger, disons, mais aussi la patience pour de ne pas recevoir tout de suite les résultats qu'on attend.
Oui, c'est
du
vrai.
Du coup, la patience, c'est hyper important parce qu'on entendra la plupart des fois non. Jusqu'à ce moment quand on
nous dit oui et que ça marche.
Exactement.
Oui, c'est vrai, il faut pas perdre courage. En fait, il ne faut pas perdre courage. Il faut se construire
exactement.
Tranquillement et attendre le bon moment et les bonnes opportunités. Et puis, la carrière démarre.
Mais c'est ça, le courage, la patience et les stratégies et l'administration de savoir comment administrer ta voix, administrer tes ressources de tout type.
Oui, voilà, c'est ça. Oui, parce qu'en fait, votre instrument, c'est le corps, il n'y a pas à dire. Donc, le corps, la tête, donc c'est tout est dans la personne, quoi. Enfin, donc, il faut organiser tout ça, il faut organiser le disque dur là-haut, il faut organiser le côté physique, mécanique, si on peut dire, sportif aussi, parce que chanter, c'est un peu du sport aussi, quand même.
Oui,
parce que
c'est nécessaire. Moi, je le trouve nécessaire.
Voilà, c'est ça. Il faut avoir un corps en bonne forme, parce qu'on fait travailler des muscles, on fait travailler tout un tas de
tout
choses.
Tout à fait.
Hein. C'est tout à fait ça. Donc un corps sain, il faut, et un esprit bien calme et bien carré, savoir un petit peu organiser ses idées et puis aussi gérer le stress, parce qu'il y a beaucoup de stress dans ce métier.
Absolument. Mais c'est pour ça qu'il faut entraîner le corps et la
tête, quoi, le mental.
Tête, l'esprit aussi, animiquement, être assez fort pour résister les...
Oui, voilà, à toutes ces pressions qu'on se met parfois tout seul à soi-même. Et puis les pressions extérieures, finalement, parce qu'on veut faire bien devant telle personne, devant les collègues, devant l'orchestre, devant tout le monde.
Exactement. Du coup, il faut avoir cette courage, mais aussi, c'est vrai... Humilité, ça.
Oui, humilité.
Humilité pour savoir on est vraiment posé, qu'on est juste des artistes qui donnent notre voix, qui donnent notre corps pour une chose encore plus élevée, beaucoup plus élevée, que c'est la musique, l'art, que c'est l'opéra à la fin.
Oui, c'est ça, tout à fait. Et parmi les rôles que tu as chantés, donc tu nous as parlé aujourd'hui, tu en as chanté beaucoup plus, je sais bien, mais tu nous as parlé plus précisément de Papageno dans La Flûte Enchantée, de Sam dans Trouble in Tahiti. Et parmi tous les rôles qui existent pour bariton, est-ce qu'il y a des rôles que tu aurais vraiment envie d'interpréter dans ta carrière?
Si j'étais ténor, ça serait Roméo de Roméo et Juliette. Mais comme je suis baryton,
oui.
Et depuis quelques semaines, en fait, pas trop, j'ai vraiment envie de chanter Yevgeny Onegin.
Oh, c'est magnifique. Oh, oui, c'est un rôle magnifique.
Le livre, je le lis maintenant.
Oui.
Et je regardais le film. Oui,
c'est
Onegin, ça serait...
Ah oui, de Tchaïkovski.
Mon rêve.
Le roman de Pushkin qui est mis en scène, qui est mis en musique par Tchaïkovski. C'est magnifique. Ça tirait très bien.
J'espère.
Tu as raison, on peut le travailler si tu veux.
On le travaillera.
On va le travailler.
Aujourd'hui même.
Je l'ai déjà fait. On va s'y mettre. Moi, je ne chante pas, je tiens à préciser. Moi, je ne fais que jouer du piano. Parce que sinon, je vais faire changer le temps. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Alors, justement, en parlant de chanter, Carlos, tu as la gentillesse. Je t'ai demandé avant cette émission si tu voulais bien chanter quelque chose. Et tu as répondu très gentiment que tu voulais bien chanter quelque chose, une chose a cappella, c'est-à-dire sans instrument qui t'accompagne, tout
Exactement.
Seul, juste pour la voix, et pas forcément de l'opéra. Je vous laisse découvrir, chères auditrices et auditeurs.
Je ne voulais pas embêter ma chère Annalisa de se lever tôt et pour venir ici.
Oui, parce qu'elle est pianiste, c'est notre pianiste, une de nos deux pianistes de l'Opéra Studio. Donc, à toi de chanter tout seul, cher Carlos. Nous t'écoutons.
Et bon, merci pour l'espace pour chanter. Et je voudrais bien chanter. C'est une chanson que j'aime beaucoup. Et c'est une chanson péruvienne qui chante beaucoup le grand ténor que j'admire beaucoup, Juan Diego Flores. C'est pour ça que je chante cette petite chanson qui s'appelle Cuando llora mi guitarra, quand ma guitare pleure.
Merci.
De Chabuca Granda.
Merci.
Cansado de llamarte. Con mi alma destrozada, comprendo que no vienes porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra te deja oír su voz. Y al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra te deja oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Grita de nuevo su nombre si no te escucho. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Que si no viene mi amor no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver.
Merci Carlos, c'est très 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 beau. Oh là là, ça donne des frissons.
Merci.
Ça y est, je suis perdue, je ne sais plus quoi te dire. Si, alors voilà, donc on a eu cette belle mélodie, et puis a cappella donc. Et puis je voulais te demander, on va bientôt se quitter, l'émission touche à sa fin, mais je voudrais savoir si l'aspect nomade de ce métier de chanteur d'opéra ne t'effraie pas ou au contraire te donne des ailes.
C'est une très difficile question parce que on vit déjà, moi je vis déjà cette vie nomade, disons, depuis quelques années que j'ai quitté le Mexique. Et me voilà maintenant à Colmar, mais avant à Madrid, avant à Valencia et après je ne sais pas où. C'est pas facile, c'est vrai, mais quand on trouve. On parlait l'autre fois, tu te rappelles, après une répétition de Brundibar, l'autre production qu'on fait ici à l'Opéra du Rhin. On parlait que c'est à travers les langues, les différentes langues, mais aussi à travers la culture, je dirais, et c'est ce que nous on fait, c'est à travers la culture qu'on crée, on peut créer de liens avec les autres personnes. Et du coup, quand on a la chance de faire de la culture et de développer des liens avec les gens de n'importe où,
de partout. Oui, que l'on croise partout.
Exactement.
On passe, oui.
Ça, c'est le moment quand on se sent, même si on n'est pas chez un, on se sent
Oui, on se chante, oui, même si on n'est pas chez, à la maison, enfin, si on n'est pas dans son pays ou dans, oui, on se sent chez nous parce que c'est un lieu où on peut tous se retrouver. Il n'y a pas de frontières pour la musique. Enfin, c'est un peu, voilà, c'est un peu bateau ce que je dis, mais en fait, c'est vrai. Parce que, en fait, on transporte un message, on fait passer une émotion. Oui. On raconte la vie d'êtres humains tels que toi, moi, les personnes devant qui vous faites les spectacles. Et donc, ça parle à tout le monde. Donc, les frontières n'existent plus. C'est
exactement.
Sûr.
C'est parce qu'on se communique pas seulement à travers la langue, mais on se communique à travers l'art, à travers la musique. La culture nous
réunit finalement.
Exactement.
Oui, oui.
Et on a la chance de se dédier à ce métier. Et de faire des liens avec, et tu sais, avec des gens de partout le monde.
Oui, c'est ça. Et puis, on parle plusieurs langues. Toi qui parles beaucoup, qui parles plusieurs langues. Et c'est vrai qu'on se retrouve tous à venir d'endroits différents.
Oui.
Et finalement, on fait la musique, il n'y a plus de problème. Quoi.
Et manière de penser différente, manière de réagir différente, manière de voir le monde différente. Mm-hmm. Et à la fin, on se retrouve tous, pas seulement de la musique, mais on a des conversations, on a des liens, des rapports.
Oui. C'est un lien d'ouverture, en fait, la musique et la culture en général.
Et ça aide à résister mieux, disons, à vivre mieux et à profiter quand même cet aspect nomade.
Nomade, oui, je comprends. Oui, c'est ça, c'est ton refuge, finalement.
Exactement.
C'est comme un refuge, oui, c'est vrai. Avant de passer au portrait chinois qui clôture tout le temps les émissions des rendez-vous de l'Opéra Studio, je voudrais faire entendre à nos auditeurs le troisième extrait que tu as choisi pour nous.
M'enamoré de ti, me ilusioné y no es raro, estas cosas siempre pasan. No me olvidaré jamás de todo lo que vivimos allá en aquel lugar, amor. Volverás, volverás, yo sé que volverás. Me cuesta vivir sin ti, siento que tienes mi otra mitad. ¿Por qué pelear y por qué discutir? Tonta, te amo.
de la salsa pour vous dans cette émission des rendez-vous de l'Opéra Studio. Mon invité est toujours Carlos Reynoso et nous allons clôturer ce moment, cet entretien avec le traditionnel portrait chinois. Cher Carlos, alors attention, c'est parti. Si tu étais un animal imaginaire, qui serais-tu ?
Imaginaire, je serais un dragon.
Un dragon ?
Oui.
Oh là là. Ah oui. Si tu étais un peintre.
Je ne sais pas un peintre, mais un tableau, je serais Simonetta Vespucci de Piero di Cosimo, qui est mon tableau préféré, qui se trouve au musée Condé, qui se trouve à Chantilly, près de Paris.
D'accord.
C'est mon musée préféré.
Pas difficile d'aller voir alors, pour
exactement,
nous.
Exactement, c'est pas loin.
D'accord. Si tu étais une année historique.
Je sais pas.
Tu sais pas.
Disons 1994.
Ah oui, on peut savoir pourquoi.
En Mexique, c'est plutôt historique politiquement, parce
oui.
que beaucoup de choses, plein de choses sont passées
dans
ce
cette
moment.
Année-là.
Il y avait une dévaluation de la monnaie,
oui.
de l'argent, oui.
Oui.
Il y avait aussi un candidat présidentiel qui était tué.
Oh là,
du
oui.
coup, c'était
un moment un peu chaotique. Oui.
Chaotique, absolument.
Oui.
Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien cette année.
Ah bon? C'est toujours un renouveau. Quand il y a un grand chaos, c'est toujours après un renouveau. Donc, c'est toujours un peu d'espoir.
Exactement.
Si tu étais un moment de la journée.
La nuit, bien
oui,
sûr.
Ouais. Tu m'aurais dit le matin, je ne t'aurais pas cru, je crois.
Exactement, pas du tout.
Non, pas du tout.
Les matins, je ne fonctionne pas.
Oui, tu as besoin de, te mettre en route tranquillement.
Exactement.
Si tu étais une salle de concert.
Ça serait... la Wigmore Hall à Londres.
Ok. Si tu étais un opéra.
Roméo et Juliette.
Oui, le fameux.
Pas encore,
ça va venir.
C'est ma préférée.
C'est très beau. Oui. D'un compositeur français, Charles Gounod, donc Cocorico, on est fiers. Si tu étais un artiste.
Moi-même,
tu as raison. C'est déjà beaucoup de boulot de se trouver exactement. Soi-même en qualité d'artiste. Si tu étais un type d'art.
Un type d'art. La danse.
Oui, magnifique. Et un compositeur.
Un compositeur Tchaïkovski.
Tchaïkovski, bien. Ah oui, on ne va pas tarder à arriver jusqu'à Eugène Onéguine. Si tu étais un musée, tu nous as
musée
répondu
Condé
tout à l'heure.
À Chantilly.
Ok. Si tu étais une œuvre d'art, tu nous l'as déjà dit. Et si tu étais un trait de caractère, qu'est-ce qui te définit le mieux pour toi, d'après toi?
J'essaie, je ne sais pas si j'arrive, mais j'essaie d'être ouvert. Oui, et d'avoir de la empathie.
Oui, moi je te rassure. Ça marche très bien. Je te remercie beaucoup, cher Carlos. Je te dis au revoir, bon vent, très belle carrière que tu mérites et que tu auras, je l'espère, de tout cœur. Je remercie aujourd'hui Peggy, qui était aux manettes pour la première fois dans ces rendez-vous de l'Opéra Studio. Bravo, Peggy. Et puis, écoutez, à très bientôt pour une autre émission, une nouvelle émission des rendez-vous d'Opéra Studio. Soyez heureux, chantez, ça fait jamais de mal. Et puis, à très bientôt. Au revoir.
Les rendez-vous,
the meeting.
Les rendez-vous,
the meeting of the opera studio.
Ontmoeten aan het opera studio.
Les rendez-vous,
the meeting.
Les rendez-vous,
l'appuntamento dell'opera studio.
Try to remember the kind of September when life was slow.
Ça vient ça.
Les lents et fous,
les sans les roues,
les.
C'est donc le.
Les lents des roues,
le.
En espagnol.
De l'opéra.
Ah, pas bienvenue.
Studio.
The Opera Studios Rendezvous.
Los encuentros de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Poznanie Opera Studio.
Merhaba, le rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.
Les rendez-vous de l'Opéra Studio.